les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités. Hélène Denis avec vous en ce 25 janvier 2018. Et en manchette, chien guide refusé dans un resto, ça arrive tout le temps. Repartir du bon pied après une longue absence du travail. Les ressources intermédiaires réclament à leur tour l'installation de gicleurs. Les muses orphelines ou quatre façons de survivre à l'abandon maternel. Et en entrevue, je recevrai Alexandre Lefebvre, réalisateur du court-métrage documentaire « Prends ma main » et Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation Le Pilier. Nouvelle tirée de la presse, chien guide refusé dans un resto, ça arrive tout le temps. Diane Bergeron raconte avoir été accueillie gentiment vendredi dernier par l'hôte à l'entrée du restaurant Lila, rue Jean Talon, Ouest, mais qu'au moment de s'asseoir à sa table, son amie et elle ont été interceptées par une employée qui leur a signifié que le chien ne pourrait pas suivre sa maîtresse ni se coucher sous la table. Peu de gens le savent, mais ça nous arrive tout le temps, déplore-t-elle au téléphone. La loi sur les produits alimentaires prévoit pourtant que toute personne qui accède à l'aire de service au public ou est exercée l'activité de restaurateur peut être accompagnée d'un chien lui permettant de pallier un handicap. Au milieu du brouhaha de l'heure du dîner, les deux femmes ont argumenté avec l'employé, invoquant des précédents qui ont valu des amendes salées à d'autres restaurants, de même que la Charte des droits et libertés qui est claire au sujet des chiens guides. En guise de compromis, la serveuse a finalement proposé que l'animal attende dans le vestibule du commerce, précisant que cet espace était chauffé. « J'étais debout au milieu de la place et personne ne disait rien pour me défendre. C'était embarrassant, humiliant », dit Diane Bergeron. Rentrée à Ottawa quelques heures après l'incident, elle a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Tiré du Journal de Montréal, repartir du bon pied après une longue absence du travail pour faciliter la démarche de retour au travail, les experts recommandent de bien planifier et de préparer sa réintégration et surtout de ne pas la brusquer. Les gens ont toujours une grande appréhension par rapport au retour au travail, peu importe la raison pour laquelle ils se sont absentés, dit Carl Brouillette, ergothérapeute et président de Globalité, une entreprise spécialisée en solutions mieux-être et à réadaptation au travail. Ils se demandent s'ils seront capables de travailler et angoissent à l'idée d'être jugés. En effet, même si les arrêts de travail commencent à être mieux accueillis que par le passé au sein de la société, ils peuvent encore être mal compris. Certains ont tendance à croire que les personnes qui s'absentent pour un long moment sont en vacances, explique l'ergothérapeute. Bien que le fait de pratiquer des activités pendant son arrêt puisse être mal perçu par les collègues et l'employeur, il faut s'y adonner autant que possible. Le sentiment d'efficacité personnelle que la personne ressent face à elle-même est l'un des grands éléments de succès du retour au travail, fait valoir Carl Brouillette. Ainsi, le spécialiste suggère de rédiger une liste des éléments qui permettront à l'individu de connaître du succès et de surmonter ses difficultés lors de sa réintégration. Il faut que ce soit des choses qui lui permettent de connaître une réussite, mais d'avoir encore de l'énergie lorsqu'il rentre à la maison, précise le président de Globalité. Enfin, que ce soit par l'entremise d'un soutien médical, professionnel ou amical, l'important est de maintenir un sentiment de bien-être. Bien que ce ne soit pas toujours facile à faire, on doit discuter de sa démarche de réintégration avec son patron. Thank you. Je suis en compagnie, il est en studio, Alexandre Lefebvre, réalisateur du court-métrage « Prends ma main » qui a été présenté aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal en 2017 avec beaucoup de succès puisqu'il a remporté le prix de la relève à cet événement-là. Bonjour, bonjour Alexandre. D'abord, bravo.
Bien, merci de m'avoir ici.
Ça me fait plaisir. De quoi est-il question dans votre film qui s'intitule « Prends ma main »
En fait, c'est un film qui traite de la déficience visuelle. J'ai suivi trois personnes qui ont des âges différents et qui ont un handicap à un niveau différent aussi. Et j'ai tenté de voir qu'est-ce que ça représentait pour eux vivre avec ça et surtout comment ils se représentaient dans le monde par rapport à ça.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de handicap visuel chez les jeunes?
Deux choses. En fait, moi, j'allais au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, et qui est proche de l'Institut Louis Braille. Et donc, j'en ai croisé beaucoup. Et à chaque fois que j'y croisais, j'avais le questionnement de me dire comment je vivrais, moi, avec cet handicap-là.
Ah oui, oui, d'accord.
Et j'ai réalisé que c'est complètement une conscience différente du monde. Et par la suite, quand j'ai dû faire un documentaire, je voulais faire un documentaire sur une recherche identitaire et les deux allaient de pair ensemble. Oui. Parce que quand on a une condition un peu différente de la norme, entre guillemets, on est toujours dans un rapport de soi par rapport à l'autre.
Tout à fait.
C'est un peu ça.
Et comment vous avez connu Chloé, Alex, Salma, les protagonistes de votre film?
Oui, bien en fait, j'ai contacté l'école Jacques Ouellet à Longueuil, qui est une école spécialisée pour la déficience visuelle. Et j'ai contacté la direction, j'ai envoyé mon projet. Ils m'ont donné une espèce de liste. Des intervenants qui pensaient qu'ils seraient le plus à l'aise à parler de ça.
Avez-vous passé des auditions?
Ben, en fait, ma première journée de tournage, je suis allé à la prise de photos d'école. Et là, donc, j'ai vu tous les élèves. Et là, j'ai regardé qui réagissait mieux, qui ça intéressait. Et de là, j'ai commencé mon processus d'aller chez les gens, regarder un peu...
Oui, et comment vous vous y êtes pris pour les mettre à l'aise? Parce qu'ils sont vraiment naturels, c'est comme si la caméra n'était pas là.
Ben oui, en fait, ils sont extrêmement naturels aussi en raison de leur condition, parce qu'ils ont moins le sentiment d'avoir la caméra
d'être
regardée à l'instant. Oui. Donc, il y avait ce rapport-là, mais ça a été aussi, comme dans tout documentaire, vraiment aller chez eux, donc aller souper avec eux, créer vraiment un vrai lien de confiance, c'est qui était essentiel, un lien qui continue encore.
C'est ça, parce qu'on voit, par exemple, Alex devant les jeux vidéo, à la piscine.
Exact.
Il y a aussi Chloé au parc, puis l'autre, Salma, qui, elle, fait une espèce de spectacle de présentation de sa condition. Et quel est le message que vous avez voulu transmettre à travers votre film?
Il y a deux points de vue, en fait, que j'avais. Il y avait l'objectif, c'était de montrer, surtout pour les personnes qui ont pas cette condition-là, qu'est-ce que ça pouvait représenter pendant un court laps de temps. Ça dure 20 minutes, donc juste essayer de le mettre un petit peu, faire sentir c'est quoi vivre dans cette condition-là.
Ouais.
Et aussi, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, de montrer qu'avec le personnage de Salma, surtout, qui est très adapté, et qui est très à l'aise avec sa condition.
Il l'a accepté complètement,
De dire que c'est pas la fin du monde et on est capable quand même de vivre et d'avoir une vie qui est bien remplie et qui va bien, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un film qui nous donne de l'espoir, qui est sensible, qui est émouvant aussi.
Oui, exactement. Je voulais pas aller dans la dramatisation et dans... Il y a quelque chose de très réel à ça, en fait. Là.
C'est ça, il y a Salma et Chloé qui sont totalement aveugles.
Exact.
Et Alex, lui, qui a des problèmes visuels, qui peut-être a un peu plus de difficultés à accepter sa condition.
Oui, étant donné que c'est quand le documentaire est tourné, ça fait 6 mois environ qu'il sait qu'il est en train de perdre sa vue. Il est quasiment à la moitié de sa vue.
Et c'est comme
donc, c'est très nouveau.
Avec le diagnostic, il disait que c'était comme recevoir une brique en pleine face, mais qu'il ne peut pas s'empêcher de vivre à cause de cet état-là.
Ça. Oui, vraiment. Ben, c'est ça l'objectif du documentaire, de dire, lui, il est en train d'apprendre à vivre avec. Chloé, qui est quand même jeune, développe son indépendance avec son handicap. Et Salma, qui est très à l'aise avec la société, avec tous ses rapports humains, en fait.
Alors, bravo pour ce film qui ne nous fait pas la morale, qui ne donne pas de leçons, qui est juste, beau et touchant.
Ben merci.
Oui, et émouvant même, parce que j'ai versé une petite larme à la toute fin, si je peux me permettre cette confidence-là. Et il y a aussi des noirs entre chacune des scènes. C'est une espèce de clin d'œil aussi à la condition
protagonistes. Il y a aussi le rapport vraiment en chapitre du film. Donc, il y a vraiment le chapitre Alex, le chapitre Chloé, le chapitre Salma. Donc, c'est important d'avoir ce rapport-là. Mais oui, étant donné que c'est un médium visuel, le cinéma, le rapport entre, c'est des images qu'eux ne verront pas vis-à-vis de créer le spectateur qui soit dans cette écoute plus active-là,
Oui.
de réaliser que ce qu'il voit, ben, les protagonistes puis le sujet ne verra pas ces images-là.
Puis il y a Chloé qui dit, je trouve ça plate que les gens veulent pas jouer avec moi des fois parce que justement, les gens qui voient ont peut-être des appréhensions ou ils savent pas trop comment approcher les aveugles.
Oui,
Et
vraiment.
pourtant, ils sont très approchables,
Oui,
si je peux dire.
exactement. Il y a une espèce de dynamique, eux, justement, qui est une dynamique où ils ont besoin, à un certain niveau, de d'autres personnes, d'une aide, mais en même temps, un besoin criant d'indépendance. Donc, c'est une espèce de dualité que je trouvais
Oui,
super intéressante
oui.
là-dedans.
D'où le titre « Prends ma main
Exact.
». Alors, où on peut le voir, ce fameux film?
Pour l'instant, il est jusqu'au 29 janvier, donc ça finit bientôt à la Fabrique culturelle, sur le site de la Fabrique.
Oui. Est-ce que vous
Et
avez l'adresse? Ben, c'est
c'est
www.lafabriqueculturelle.tv/capsule.
Ouais.
Vous...
Si on s'en va sur la page de Fabrique culturelle et on marque « Prends ma main », on
Oui.
va le trouver. Sinon, il continue sa tournée en festival pendant, disons, la prochaine année. Donc, il va être au Festival international de Toronto pour les enfants. Donc, le jury, c'est des enfants.
Ah oui.
Et sinon, il va être au Gala Prends ce cours. Donc, il y a quelques festivals qui s'en viennent
Est-ce que vous allez
également.
participer à toutes les fois où le film sera présenté?
Dans la majorité du temps, si c'est possible, je vais le faire.
Vous
J'aime ça
étudiez
me
en
présenter.
cinéma.
Je viens de terminer, en fait.
OK.
Donc là, j'ai le temps de pouvoir y aller,
Oui,
justement.
oui. Est-ce que vous travaillez sur d'autres films?
Oui, j'ai quelques projets en ce moment en branle. Donc, un documentaire et deux fictions qui sont en pré-production.
OK.
Et je
Le
travaille.
prochain sujet, est-ce que je peux me permettre de vous demander?
Oui, le documentaire, c'est. En fait, c'est on va aller rencontrer des Premières Nations en Sibérie.
Oh,
Ouais,
wow!
exactement, en partenariat avec Radio-Canada.
Ah oui.
Ouais, donc, et sinon, l'autre, c'est des fictions qui sont aussi.
Ben Alexandre Lefebvre, bravo encore pour prendre ma main. Merci d'être venu
Ben,
à
merci à
Canal
vous.
M et puis bonne continuation.
Ben, merci beaucoup.
Dans le soleil, les ressources intermédiaires réclament à leur tour l'installation de Gicleur. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec réclame que ses membres aient aussi accès à des subventions pour l'installation de Gicleur actuellement réservée aux résidences privées pour aînés. La semaine dernière, Québec a annoncé une bonification de 40% de son programme de subvention pour l'installation de Gicleur de façon à permettre à tous les RPA, donc les résidences privées pour aînés, d'être giclés d'ici 2020. Et de s'en conformer à un règlement de la Régie du bâtiment du Québec. Les ressources intermédiaires n'étant pas visées par ce règlement, elles ne sont donc pas ciblées par le programme de subvention, explique une porte-parole du ministère de la Santé. Ces ressources d'hébergement sont toutefois tenues de se conformer aux réglementations de la RBQ, Régie du bâtiment du Québec, qui s'appliquent à elles, ajoute la porte-parole. Ces réglementations n'incluent pas l'obligation légale de se gicler, précise la porte-parole. Selon le directeur du service aux membres et des communications de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, Luc Valran, seules les ressources intermédiaires de 15 places et moins qui n'occupent que le rez-de-chaussée d'un bâtiment ne sont pas obligées d'être giclées. À l'heure actuelle, environ la moitié des 900 contrats de ressources intermédiaires sont des contrats de moins de 10 places. Au-dessus de 10 places, c'est le code de la Régie du bâtiment du Québec qui s'applique, mais en deçà, ce sont les municipalités qui dictent les règles en sécurité incendie, précise Luc Valran. Et je joins maintenant Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation Le Pilier. Bonjour, M. Bélanger.
Bonjour à vous.
Merci de nous accorder quelques minutes de votre précieux temps. Alors, quels sont les services offerts par la Fondation Le Pilier aux personnes handicapées?
Alors, la Fondation Le Pilier, si vous voulez, nous avons 10 ressources d'hébergement pour ces personnes-là. Parmi ces 10 ressources-là, on en a 2 en déficience physique, c'est-à-dire 2 maisons Martin et Matt qu'on s'occupe et qu'on en gère, et on a 8 autres ressources pour une clientèle multi-handicapée.
Et financièrement, comment se porte le pilier?
Comme bien d'autres organisations. C'est-à-dire que la situation est parfois un peu difficile compte tenu de la rétribution journalière qu'on reçoit pour les ressources où on a des contrats de ressources intermédiaires avec le ministère.
Oui. Et quel est l'impact des coupes gouvernementales pour votre organisme?
Écoutez, nous, c'est sûr qu'au niveau de la qualité des services, on essaie de maintenir le plus possible. À la Fondation, c'est un bain par jour pour les personnes. Ça, c'est très important pour nous. Au niveau des ratios d'accompagnement aussi, c'est très important compte tenu de, si vous voulez, du niveau de handicap des personnes. Donc, c'est sûr qu'on arrive à une condition où, si vous voulez, nous, en 87, on recevait 152 $ par jour de rétribution pour chacune des personnes.
Oui.
Aujourd'hui, en moyenne, ce qu'on reçoit pour les ressources intermédiaires, c'est 126
$. Oh.
30 ans et plus.
26 $ de moins.
Si vous voulez, c'est en plein ça. Alors, mettez ça en dollars d'aujourd'hui, vous allez comprendre ce que ça veut dire.
Oui.
Avec l'augmentation des coûts d'opération, évidemment.
Oui, ça fait mal.
Ça fait très mal, effectivement.
Quels sont vos moyens de financement?
Nous, si vous voulez, l'essentiel de notre financement provient des ententes de services qu'on a avec le ministère, d'une part. D'autre part, on reçoit aussi un montant à travers les collectes de fonds qu'on fait. Donc, notre levée de fonds actuellement sert aussi à supporter les ressources. Et on a des ressources qui sont, disons, viables, donc qui permettent aussi de supporter les ressources actuellement qui sont non viables.
Et vous avez des événements qui s'en viennent, j'imagine, pour aussi, ça fait partie des manières de vous financer.
Oui, absolument.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces prochains événements dont le porte-parole est nul autre qu'Alexandre Bilodeau, skieur acrobatique, champion olympique?
Oui, double champion d'ailleurs, et Alexandre a gentiment accepté d'être le porte-parole de nos 2 prochains événements majeurs. Le premier va avoir lieu le 8 février prochain, si vous voulez, au Casino de Montréal. Donc, c'est la soirée des grands piliers où on honore des gens qui supportent la Fondation ou des personnes handicapées comme telles. Et cette année, c'est le 15e anniversaire du Centre Marcel et Jean Coutu. Alors, on va faire un petit clin d'œil, puis on tient à souligner tous les efforts de la famille Coutu et du groupe Jean Coutu aussi.
Oui, puis l'autre événement?
Et l'autre événement auquel participe Alexandre encore une fois comme porte-parole, c'est le Grand Challenge qui va avoir lieu, un tournoi de hockey qui va avoir lieu à Place Belle les 21 et 22 avril prochains.
Place Belle à Laval, qui est un lieu accessible, soit dit en passant.
Oui, oui. Et ça va être très, très bien. On a des équipes, les différents, donc une équipe de personnes avec une déficience intellectuelle font partie aussi des équipes qui se joignent au Challenge. Ça va être très bien. Il va y avoir des artistes également. Alors, on travaille beaucoup actuellement dans l'ombre pour aller chercher nos équipes, mais ça va quand même très bien, oui.
Quelle date, le Challenge des Grands Piliers?
Le Challenge des Grands Piliers, les 21 et 22 avril prochain.
OK. Bon, alors, c'est la neige va être fondue, on le souhaite bien, là, mais quand même.
C'est en 24 heures, donc on s'attend à avoir 25 équipes qui vont participer, qui vont jouer pour ce tournoi-là.
Oui, oui. Est-ce que vous êtes en plein recrutement ou tout est fait pour les équipes, les joueurs, les bénévoles?
Non, on est en plein recrutement actuellement.
Oui.
Les gens peuvent s'inscrire directement sur challengeflp.ca. Donc, c'est une possibilité pour rejoindre obtenir l'information. Et vous pouvez aller, sinon, sur le site de la Fondation, lepilier.org, où vous allez avoir toutes les informations concernant ces 2 événements-là.
Bon, mais c'est parfait. Et ça coûte quelque chose, j'imagine, pour s'y inscrire?
Oui. Pour les équipes qui vont travailler, qui vont participer 2 jours, c'est le montant qu'on demande à chacune des équipes de pouvoir amasser, c'est 5000 $ Et ceux qui vont participer de nuit, c'est 3500 $
Parfait. Puis est-ce que vous alliez dire autre chose?
Pardon?
OK, je pensais que vous aviez une autre... vous vouliez ajouter quelque chose.
Non, c'était essentiellement ça, mais on compte et on espère que les gens vont venir nous encourager, évidemment.
Mais certainement, des dates à retenir. Donc, la soirée des Grands Piliers 2018, ça va ressembler à quoi, là? Un souper, une fête, un spectacle?
Oui, alors, évidemment, on a une belle soirée. Il y a un encamp qui va être important. On s'attend à avoir 225-250 personnes. D'ailleurs, nos co-présidents d'honneur Desjardins et Métro ont gentiment accepté de se joindre à cette soirée-là. Mm-hmm. Alors, on les remercie encore une fois. Et durant la soirée, il y a évidemment, à la fin du souper, il y a un grand spectacle. C'est plus intime quand même. C'est M. Marc Hervieux avec son tout nouveau spectacle et ses 8 musiciens qui vont être là. Alors, ça va être très, très bien.
Oui. Lui n'a pas une voix intime, par exemple. Ça sort. Ça s'entend.
Ça réchauffe les cœurs.
Oui, tout à fait. Puis, vous avez parlé aussi d'artistes qui vont participer au Challenge des Grands Piliers. Est-ce que vous avez quelques noms?
Je ne peux pas les nommer, mais je peux vous promettre qu'ils vont en avoir. Alors, ça, c'est vraiment le comité organisateur qui travaille dessus. Je sais qu'il y en a déjà, mais on attend un petit peu encore pour les nommer, pour les présenter.
Il va falloir se reparler là-dessus parce que ça s'en vient quand même en avril. Mais pour la soirée des Grands Piliers 2018, c'est le 8 février au Casino de Montréal. Il reste encore des billets?
Il reste encore quelques billets, absolument. Et on encourage les gens à venir participer à cette belle soirée-là. Les gens apprécient énormément cette soirée-là.
Ben, Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation Le Pilier, merci pour cette entrevue, puis bonne chance avec tout ce que vous faites.
C'est très gentil à vous. Je vous salue. Merci beaucoup. Au revoir.
Sur le site de Radio-Canada, Les Muses orphelines, la pièce de l'auteur québécois Michel-Marc Bouchard, prend l'affiche au Théâtre de l'Île de Gatineau ce soir et jusqu'au 24 février. Pour les comédiennes Maxine Turcotte et Magali Lemel, le spectacle est l'occasion de jouer des personnages qui les habitent depuis 2 décennies. Les Muses orphelines racontent l'histoire des Tanguay, une famille éclatée de 4 enfants qui se retrouvent à la suite de l'invitation d'Isabelle, la cadette, qui souffre d'une déficience intellectuelle. Ce qu'elles ne leur dirent pas, c'est qu'ils sont tous réunis pour revoir leur mère qui les a abandonnés 20 ans plus tôt. Une fois révélée, la vérité fait éclater les secrets de famille au grand jour. Maxine Turcotte, qui célèbre ses 25 ans de carrière cette année, a enfin la possibilité de jouer Catherine, l'aînée, qui s'est retrouvée du jour au lendemain en charge de sa jeune sœur handicapée. La comédienne souhaitait incarner ce personnage depuis ses débuts. Pour Magali Lemel, la pièce est plutôt un moment de retrouvailles. Il y a 20 ans, elle avait incarné le personnage d'Isabelle. Cette fois, elle monte sur scène dans la peau de Martine, une militaire. La comédienne y voit des parallèles avec sa propre vie et une occasion de ressentir et porter le propos du texte différemment. Dans le texte de Michel-Marc Bouchard, on surnomme le personnage d'Isabelle la Mongole parce qu'elle souffre d'une déficience intellectuelle. Il est important de préciser que l'histoire se déroule dans les années 1960 et que l'action se déroule à Saint-Ludger de Milo, au lac Saint-Jean. En 2018, la metteur en scène au Théâtre de Lille n'a pas voulu mettre l'accent sur le handicap de la Benjamine de la famille. Pour ses 35 ans, l'Association Handicap International, née à Lyon en 1982, s'offre une nouvelle identité. Pour réaffirmer ses valeurs, l'ONG mise sur un nouveau logo fédérateur. L'occasion de rappeler les champs d'action d'une des plus importantes associations internationales. Handicap International est présent dans 61 pays pour aider les populations à se reconstruire après les catastrophes naturelles ou les conflits armés. Une main, un sourire, des initiales. C'est une main qui salue, qui se tend vers l'autre, mais aussi qui dit stop aux exactions. Décrypte Xavier Ducrest de Villeneuve, directeur de Handicap International France. Il poursuit, il nous fallait une identité qui soit fédératrice, non clivante, qui aille au-delà des cultures, des langues et des niveaux d'éducation. L'idée pour l'ONG est de devenir universelle pour les bénéficiaires et pour les bailleurs de fonds, afin de simplifier le paysage associatif. Avec ce nouveau logo, l'association espère être davantage reconnue sur le terrain. Et pour cela, elle change aussi de nom dans les pays anglophones et devient « Humanité et Inclusion ». En anglais, « handicap » est trop péjorativement connoté. Il ne porte plus les valeurs de l'association. Ce nouveau nom véhicule l'idée de bienveillance et la nécessité de construire des sociétés toujours plus inclusives. En conservant la couleur et les initiales, Handicap International entend renforcer sa présence, déjà bien ancrée sur le terrain. Un changement de forme qui n'enlève rien au fond. Lui sourd, elle non. Il sème d'amour tendre. C'est sur le site westfrance.fr. En bord de Loire, à Chalonne, Mathieu et Marion aménagent une camionnette pour partir à la rencontre d'autres couples mixtes dans différents pays. Lui est sourd, elle non. Ce tour d'Europe démarre en mars pour au moins 6 mois. Porte arrière ouverte, la camionnette laisse apercevoir ses premiers aménagements, super isolation, fenêtres rideaux, plancher nickel chrome. Pendant 6 mois, voire 9, ce sera la maison de Marion et de Mathieu, ensemble dans la vie depuis 3 ans. Road movie en vue que tous deux ont baptisé. M&M, l'Europe en un tour, deux mains. Il nous reste à poser tout ce que Mathieu a fabriqué, la menu cuisine, le lit pliant deux places, les placards. L'amour du voyage, l'envie d'aller se confronter à la réalité lointaine d'autres couples mixtes comme le leur. De ces deux objectifs, lequel a surgi en premier? Pas de réponse tranchée. Chez Marion, le goût de l'errance géographique se mêle à l'envie de témoigner. Témoigner qu'un couple, a priori séparé par la surdité de l'un et l'absence de surdité de l'autre, peut très bien marcher, s'enflamme la jeune assistante vétérinaire de 27 ans. Désolée que la France compte si peu d'unions mixtes. Blog de Marion et de Mathieu, www.mmeurope, en un tour, deux mains, le chiffre 2.com. Et pour terminer, invitation au vernissage de l'exposition « À ma façon » le 29 janvier de 14h à 16h au Centre culturel Georges Vanier situé au 2450 rue Workman à Montréal. Après un automne d'exploration et d'expérimentation avec plusieurs médiums, nous avons proposé aux élèves de réaliser une œuvre qui leur ressemble en abordant un sujet personnel qui les interpelle et ou en s'inspirant d'artistes renommés tels que Miro, et Basquiat. Pour accomplir les œuvres de l'exposition « À ma façon », nous les avons invités à utiliser la démarche réelle qu'emprunte généralement la plupart des artistes professionnels. Ils ont d'abord été invités à exécuter plusieurs croquis afin de mieux déterminer la composition générale de leur toile en devenir. Enfin, nous leur avons demandé de trouver un titre descriptif ou poétique à leur œuvre. C'est avec fierté qu'ils vous présentent leur travail, donc le vernissage a lieu le 29 janvier au Centre culturel Georges Vanier. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci à mes invités Alexandre Lefebvre et Pierre Bélanger et à mon équipe Anne-Laure Janson et Mathieu Tessier. À lundi!